Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Johan Swar et Christophe Blain qui viennent de ressusciter Blueberry, le héros mythique ou plutôt l'anti-héros par excellence et néanmoins mythique, créé en 1963 pour la revue Pilote par Jean-Michel Charlier au scénario et Jean Giraud au dessin, autant dire deux grands monuments de l'histoire de la bande dessinée franco-belge. Blueberry, le cow-boy, Blueberry, l'esprit rebelle de l'Ouest américain du milieu du 19e siècle, renaît donc dans une nouvelle aventure après des années d'absence dues notamment au décès de ses créateurs. Amertume Apache, tel est le titre de ce nouveau Blueberry signé par Blain et Swar, soit deux des plus grands auteurs de la bande dessinée contemporaine. C'est donc une reprise et en même temps, c'est une aventure qui s'annonce comme une des plus belles de l'ex-lieutenant de l'armée américaine. Voilà qui va rendre le vieux débat pour ou contre les reprises encore plus complexe. Toutes les reprises ne se valent pas, viendront nous dire dans cette émission l'auteur de bande dessinée Émile Bravo et le philosophe et romancier Tristian Garcia. Mais de fait, le nouveau Blueberry qui débarque dans nos librairies aura comme voisin le dernier Corto Maltese, repris par le tandem Juan Diaz Canales et Ruben Pelejero, le tout nouveau Black et Mortimer, La Vallée des Immortels 2 et le Astérix de saison, le tout frais Manir, livré par Yves Ferry et Conrad, la fille de Virgin Citorix. On parlera donc des reprises, mais tout d'abord, on va saluer, comme il se doit, Amertume Apache, la nouvelle aventure de Blueberry, d'après une idée de Johan Swar, scénario de Johan Swar et Christophe Blain, dessin de Christophe Blain qui s'est également occupé des couleurs en compagnie de Clément Sapin. Une nouvelle aventure de Blueberry, Amertume Apache, est éditée chez Dargaud.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Johan Swar et Christophe Blain. Alors, vous voilà devenus pour la première fois les parents d'un héros connu, ou autrefois connu, qui n'a pas été créé par vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous de redonner vie à Blueberry ? Christophe Blain ?
Fascination. On réexplore une fascination, profonde, une fascination d'adolescent, parce que j'ai découvert Blueberry, moi j'avais 11-12 ans. Et j'ai découvert Moebius en même temps que Giraud. C'était un choc majeur. Qui a encore ses effets maintenant, sur lequel je vis encore. Donc c'était c'est une fascination, c'est jouer avec une fascination, c'est il y a une forme d'accomplissement en faisant ça. Il y a une rencontre avec le gamin que j'étais à cet âge-là.
Jeanne Farr ?
Bah oui, c'est un travail. Si la bande dessinée est un art, c'est un exercice d'histoire de l'art. On a voulu étudier la génération qui nous a précédés et faire un travail en, j'allais dire presque talmudique parce que je peux pas m'en empêcher. En tout cas, c'est une étude. C'est bizarre, le western. Il y a plein de nouveaux westerns en cinéma, formidables. On les oublie dès qu'on les a vus. Ils ont beau être extraordinaires, ils impriment pas comme les John Ford et tout ça. La bande dessinée, c'est la seule discipline où le western est encore vivant. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il y a que des petits garçons ou des vieux petits garçons ? J'en sais rien. Mais le western en bande dessinée, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Là, oui, en plus, le fait de reprendre un personnage quand même, un héros iconique de la bande dessinée.
Voilà. Et Blueberry, il a quelque chose de particulier. Contrairement à Astérix, par exemple. Astérix, il est solide. Du premier au dernier album, il a à peu près la même tête. Si on reprend Astérix, on sait comment le dessiner. Blueberry, il change de tête à chaque page de Jean Giraud. Donc c'est un art vivant, évolutif, qui répond au cinéma, qui répond à la littérature, qui répond à tout ça. Donc reprendre ça, c'est forcément pas copier. C'est forcément se dire, avoir une réflexion sur, d'abord sur le dessin réaliste, qui ne veut rien dire, mais qui est un sujet passionnant, et ensuite sur l'héroïsme viril, ou appelons-le comme on veut, en bande dessinée. Et après, pour des raisons plus intimes, Christophe a une fascination pour Blueberry, moi j'ai une fascination pour Christophe. C'est mon meilleur copain, c'est mon dessinateur préféré, on en joue, on fait des blagues d'habitude, mais là on a essayé de faire moins de blagues, on a essayé d'aller au fond de ce qui nous fascine l'un chez l'autre.
Geronimo, then Cochise, and now the bloodiest Apache of them all, Old Sana.
Hey,
Parlons un peu de l'histoire de cette nouvelle aventure de Mike Steve Donovan, alias Lieutenant Blueberry, et peut-être partir du titre de l'album, Amertume Apache, en hommage donc à Führer Apache, le western de Robert Aldrich, réalisé en 70, et qui lui-même faisait écho à un autre western du même Aldrich, réalisé en 1954, Bronco Apache. De quoi ça parle ?
Ça raconte l'histoire d'un assassinat non prémédité, accidentel, mais assez abominable, commis par trois jeunes adolescents au bord d'une réserve indienne.
Et dans une adolescente, ce n'est pas rien de le rappeler.
Bien sûr, oui, c'est une jeune fille qui commet l'abominable et ça va déclencher naturellement une vendetta parce que. Les personnes qui ont été tuées sont la femme et la fille d'un grand guerrier. Le guerrier, naturellement, va suivre son rôle et va déclencher une...
Et pourquoi un hommage au film de Robert Aldrich ?
Parce que on parlait de toute façon des guerres indiennes. On savait qu'on allait parler des guerres indiennes avec Johan et j'avais dit à Johan, tiens, bah, regarde ce film. Et parce que la mélancolie qui est dans ce film, la mélancolie, la tristesse, correspondait tout à fait à l'état d'esprit qu'on avait en abordant cet album et particulièrement l'état d'esprit dans lequel était Johan quand il a commencé à écrire l'histoire.
Mélancolique. Donc, comment reprend-on un personnage iconique de la bande dessinée, si intimement lié d'ailleurs à un monument, Jean Giraud ? Est-ce qu'on postule auprès des ayants droit et éditeurs ? On est choisi ? On fait des tests ? Jean-Soir, Christophe Plain ?
Alors, ça s'est passé de la façon suivante. Christophe et moi travaillons sur un projet de Corto Maltese qui s'est jamais fait. Mmh. Et nos camarades chez Dargo, sachant ça, ont appelé Christophe en disant « Est-ce que vous voulez pas faire un Blueberry ?» Et dans le passé, Jean Giraud avait proposé à Christophe de lui écrire des Blueberry, ce qui s'était jamais fait, mais on s'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd chez Dargo. Et je me suis mis au travail complètement au service de Christophe, parce que Blueberry, c'est sa fascination, bien plus que la mienne, et j'ai essayé de trouver quelque chose qui était relevant pour moi. Alors je me suis dit, ok, il y a une histoire tragique, il y a les limites du héros. Christophe m'a tout de suite dit, attention, n'oublie pas que son métier, c'est soldat. C'est pas lui le patron. Il a un gradé au-dessus de lui. Il a des hommes en dessous. J'ai essayé de caser assez souvent dans l'histoire les limites. Dès le début, il n'arrive pas à tenir son cheval. Il y a un moment, il dit, c'est pas à moi de prendre cette décision. Christophe a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a mis un blueberry qui fait des blagues, qui sont pas drôles, qui sont des blagues pour rassurer ses hommes, pour créer de la chaleur humaine. Et finalement, on s'est posé des questions très réelles. On s'est dit, ok, qu'est-ce que c'est son métier? Où il vit? Il n'y a qu'une femme dans le camp. Ok, quand il est amoureux d'elle, il a le courage de lui dire, madame, ce qui nous arrive, c'est pas de l'amour. Donc, je dis pas qu'on a voulu faire du réalisme parce que ça veut rien dire, ni en dessin, ni en écriture. Mais en tout cas, on a essayé d'y croire tous les deux.
On parle aussi de reprise avec vous à l'occasion de la sortie de ce Blueberry. Et je vous propose d'écouter Émile Bravo, qui, lui, a aussi sa petite idée.
Mais en fait, ça dépend. Je pense que si on fait une reprise en fait d'un univers qui appartient réellement à un auteur, c'est difficile, à mon avis. Par exemple, parce que comme je dis, moi je compare souvent la bande dessinée de l'écriture à de la littérature. On n'a jamais demandé à un auteur en littérature à quelqu'un d'autre, une fois que la personne a disparu, de reprendre son œuvre. Et moi, je vois un peu les choses comme ça. Alors moi, en ce qui me concerne, pour Dupuis, pour Spirou, c'est facile parce que c'est une sorte de franchise. Et ce personnage appartient aux éditions Dupuis, donc c'est normal de le reprendre. Après, reprendre un univers, bah, pourquoi pas, ça dépend en fait vraiment si la personne le ressent, de quelle façon elle le ressent, mais je trouve que c'est rarement réussi. Jusqu'à présent, on a eu des choses qui ressemblaient plus en fait à des produits plus qu'à des œuvres d'auteurs. Je sais pas, c'est à part peut-être le Blutch qui n'est pas encore sorti, mais moi, ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est complètement, là aussi, c'est complètement incarné. Et...
C'est bien sûr Tif et Tondu. D'ailleurs, c'est une des reprises les plus étonnantes parce que on peut pas dire que l'argument commercial tienne. Hein. Ce sont des héros un peu moins prestigieux que les Astérix, Blueberry, Spirou, Lucky Luke. Tif et Tondu, qui s'en souvient?
Eh ben justement, c'est peut-être pour ça. Ben, moi de toute façon, déjà, je pars du principe que pour faire des reprises, il faut pas se sentir, faut pas que ce soit un poids, hein, faut pas sentir qu'il y a une espèce de passif, que ce soit qu'on s'attaque à un monument, on reste dans le domaine de la bande dessinée quand même. Donc il faut prendre ça avec de la distance et il faut surtout s'amuser, quoi. Je pense qu'il faut s'amuser. Faut pas essayer de faire comme un tel. Faut être dans ce qu'on appelle l'esprit, quoi. Et si on est dans l'esprit, tout va bien. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes personnes en fait qui font des reprises se perdent en fait justement dans une sorte de, ils se créent eux-mêmes leur cahier des charges et ça peut être bon, ça devient peut-être un petit peu lourd à la lecture, je sais pas, ça fait pastiche quoi, c'est bien souvent. Enfin, je vais pas donner l'exemple. Hein.
Avez-vous déjà essayé, Émile Bravo, de proposer d'autres lectures des héros dits classiques de la bande dessinée?
Eh bien, figurez-vous qu'avec Johan Sfar, on avait proposé un projet au début des années 2000 et c'était un Blake et Mortimer. Et en fait, moi je me souviens que je trouvais ça assez passionnant comme histoire parce que il y avait déjà plusieurs Blake et Mortimer qui étaient sortis, mais vraiment, Johan et moi, on considérait que c'était vraiment du pastiche, quoi. Il y avait peut-être autre chose à faire et Johan avait trouvé une excellente idée. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite suivi, c'était de faire une histoire où en fait il était question en fait d'une cinquième dimension, que Blake et Mortimer, enfin Blake était perdu dans une cinquième dimension qui était une nouvelle arme. Et bon, et à la fin, bon, Mortimer le sauvait et en gros, alors déjà c'était un conflit entre un militaire et un scientifique au lendemain de la guerre avec un nazi aussi qui travaillait pour ce projet et tout. Et c'est surtout en fait que Mortimer sortait Blake de le sauvait en fait. Et finalement, il n'avait absolument rien compris à ce qui s'était passé. Et en fait, c'était une façon de dire ces héros appartiennent à leur époque, les années 40, 50, foutez-leur la paix parce que maintenant on peut plus rien. Enfin, ils ne peuvent pas comprendre le monde d'aujourd'hui, le monde du futur, et à partir de là, bah, c'était vraiment histoire de faire un one shot et de dire laissez tomber Blake et Mortimer, laissez-les dans leurs années, c'est tout quoi. Et il y avait une intrigue, elle est très Hitchcockienne, et là vraiment ça avait un sens quoi. C'était un petit peu pour se foutre un peu de la gueule de ces reprises quoi. Et,
ça n'a pas marché, je suppose. Bah oui, ça n'a pas marché puisqu'on l'a pas vu cet album.
Bah, non, il l'avait planifié, mais il nous avait dit ouais dans 5 ans, et on dit bon ça vous intéresse pas, donc on est passé à autre chose. De toute façon, lui il avait son chat du rabbin à faire et moi j'avais des épatantes aventures de Jules, donc voilà, on avait du boulot personnel quoi. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment, il y avait vraiment une idée très intéressante, puis c'était drôle.
Émile Bravo, auteur de bande dessinée qui a repris à sa manière Spirou.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Comment vous réagissez, John Sfar? Parce que du coup, là, on apprend que, d'une part, vous avez essayé avec Corto Maltese et avec Christophe Blain, que vous avez essayé de reprendre Blake et Mortimer.
Non, c'est mieux que ça. C'est que moi, j'ai écrit du Blake et Mortimer pour Dargo avant la première reprise de Blake et Mortimer.
Ah oui, avant même là.
Bien sûr, il y a très longtemps. J'étais tout jeune auteur et je me voyais scénariste et ça a été un de mes premiers travaux. Il y a une interview d'Hugo Pratt qui est lumineuse là-dessus quand il parle de Corto Maltese. Il dit « Je voudrais qu'il arrive à mon Corto la même chose qu'à Batman, c'est-à-dire qu'il soit repris par quelqu'un comme Frank Miller qui me trahisse complètement. C'est-à-dire que on n'a pas envie d'être copié, on a envie que nos personnages nous survivent, mais on n'a pas envie qu'un lecteur achète un Blueberry en croyant que c'est dessiné par Giraud. C'est pas respectueux pour Giraud, c'est pas respectueux pour le lecteur. On a envie que des auteurs prennent avec sérieux une œuvre existante et se disent qu'est-ce que ça dirait aujourd'hui. Donc le Batman de Frank Miller, pour moi, c'est l'idéal d'une reprise.
Puisqu'on parle des reprises, qu'est-ce que ça représente pour vous une reprise? Est-ce que c'est une consécration ultime, un défi à surmonter, un hommage aux maîtres qui ont chanté votre enfance, peut-être, ou tout simplement, avec plus de détachement, une manière de revisiter votre enfance?
Je prendrai un mélange des trois dernières propositions que vous avez faites. Ouais. C'est un mélange de dommage, de défi. Il y a un vrai défi parce que Johan et moi, on est sortis de notre zone de confort. On est restés totalement nous-mêmes en se mettant au service de Blueberry. Enfin, en prenant Blueberry pour ce qu'il était. Et aussi pour l'image qu'on en avait. Et ça, c'était fondamental. On est restés nous-mêmes et en même temps, on a essayé on s'est poussé dans des retranchements et on a fait des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, aussi bien graphiquement que du point de vue du scénario. Et c'est ça qui était passé. Donc il y a un côté de défi.
Vous aussi, défi, consécration pour l'argent.
Il y a cette façon de se cacher, de mettre un masque, de se déguiser pour dire des choses plus intimes que ce qu'on dirait d'habitude. Par exemple, dans Le chat du rabbin, je suis toujours dans une espèce de tendresse un peu enfantine. Le fait de me cacher derrière le réalisme apparent de Blueberry, je peux aborder l'âpreté de la vie d'adulte. Puisque quand on était enfant, on lisait Blueberry en se disant « Ah ben ça, c'est une histoire pour adultes. » Ce qui n'a aucun sens, c'est écrit pour des enfants. Ouais. Mais nous, on le voyait comme une histoire pour les grands. Donc on a abordé, je crois que Christophe comme moi, on a essayé de parler de l'amertume des adultes.
Alors maintenant, je vais vous proposer d'écouter Tristan Garcia, romancier philosophe et à ses heures perdues, théoricien de la bande dessinée à propos des reprises. Tristan Garcia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous vous intéressez à la bande dessinée, vous dirigez même d'ailleurs une collection des livres théoriques sur le 9e art. Un vient d'être publié, c'est celui de Nicolas Tellop, consacré à Corto Maltese et plus précisément à Fable de Venise. Or, Corto Maltese n'est pas mort, le héros continue à survivre à Hugo Pratt. Que pensez-vous de ces reprises en bande dessinée, que ce soit Astérix, Lucky Luke, Spirou, Blueberry, bien sûr.
On pourrait se dire qu'il y a trois cas différents au fond. On pourrait s'imaginer qu'il y a des héros souples, des héros durs et des héros à trous en bande dessinée. Les héros durs, on les trouve principalement dans la bande dessinée franco-belge. C'est des héros qui sont très déterminés, qui sont localisés dans l'espace et dans le temps, qui ne vieillissent pas, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de famille. C'est Tintin ou c'est Astérix. Quand on les reprend, c'est très dur. C'est très dur de pas refaire la même chose, de pas bégayer. Les héros souples, c'est au contraire principalement les super-héros américains sont des créations souvent collectives, voire des créations industrielles
qui ont été faites. Ouais.
Pour pouvoir être prise et reprise sans cesse. Donc il s'adapte, hein, il y a des reboots fréquents, comme on le dit dans le monde des super-héros, ce qui permet de les réactualiser. Ils sont extrêmement souples, hein, c'est Spider-Man ou c'est Superman, puisqu'ils ont une mythologie, ils ont un ensemble d'attributs, ils ont une histoire, mais qui peut s'adapter à des contextes différents, à des époques différentes. Puis il y a des héros à trous, et c'est le cas de Blueberry, c'est le cas de Corto Maltese. Ils ont une biographie, ils ont une histoire. Très souvent, on connaît leur naissance, on connaît leur mort. C'est le cas, puisque pour Blueberry, par exemple, Charlier avait rédigé, je crois que c'était en introduction de La Ballade pour un cercueil, une biographie de Blueberry. Donc, ça permet de connaître son enfance, sa jeunesse, sa mort. Et puis ensuite, il y a des trous. Comme pour Corto Maltese, c'est-à-dire il y a des moments, qu'est-ce qui se passe juste avant la balade de la mer Salée, qu'est-ce qui se passe entre 1919 et 1921, voilà. Donc c'est des personnages qui sont ni tout à fait souples, ni tout à fait durs, mais qui sont des personnages en pointillés, et quand on les reprend, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que d'essayer de remplir les trous.
Et dans l'ensemble, que pensez-vous des reprises ?
En tout cas, dans le patrimoine de la bande dessinée européenne, là où ça laisse le plus de marge aux auteurs, c'est pour les personnages à trous, c'est les héros à trous. C'est Blueberry, c'est Corto Maltese, mais on pourrait penser à Valérian aussi. Hein. Mm-hmm. Il y a des trous dans la chronologie de Valérian. Larsenet en a fait un, par exemple, que je trouve a été sous-évalué, qui était un bon album. Il y a le Tiff et Tondu de Blutch, où il y a eu le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme aussi, par exemple. En revanche, pour les héros durs, les héros en dur, c'est très compliqué. Parce que c'est des héros qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'origine, qui n'ont pas de biographie. Donc là, je vois pas très bien comment on pourrait faire, en tout cas sur le modèle américain, qui est devenu malheureusement peut-être le modèle de la reprise.
Ouais, mais
je vois pas très bien comment on peut faire avec ces personnages.
Certes, mais il y a un distinguo à faire quand même, Tristan Garcia, entre une reprise dans le style de l'univers de l'auteur avec un cahier des charges très strict, et puis une carte blanche. Je veux dire que quand Émile Bravo reprend Spirou, en fait, il reprend pas la série classique de Spirou. C'est une carte blanche avec Spirou.
Ah oui, mais la reprise de Émile Bravo, elle est géniale, mais tout le monde le sait, d'ailleurs Bravo le dit lui-même, c'est Tintin qui voulait faire. C'est un Tintin, en fait, ce qu'il a fait. C'est un Tintin, mais avec une houppette et avec un habit de groom. L'influence de Bravo, c'est Hergé. On voit bien qu'en fait, à part quelques attributs de Spirou, ou même de Fantasio, d'ailleurs, qui son Fantasio devient une sorte de Haddock, hein, colérique, énervé, qui jure... Moi, je trouve que c'est une œuvre géniale, l'œuvre de Bravo, mais elle n'a pas grand-chose à voir avec Spirou.
Tristan Garcia, philosophe, romancier et théoricien de la bande dessinée.
Le réveil culturel.
Est-ce que vous avez l'impression de combler les trous? Tout d'abord, peut-être un mot de Joël Soir à propos de cette grille religieuse pour parler des bandes dessinées.
Mais bien entendu, moi je lis beaucoup plus de comics que de BD, j'allais dire occidentales.
Franco-belge.
Ce qui est formidable chez les Américains, c'est que ça les dérange pas chaque semaine de raconter la même histoire de Batman depuis 70 ans. C'est vraiment comme quand mon père faisait la prière du kidouche avant de boire son vin. C'est la même prière tous les vendredis soirs, mais il est content.
Vous voulez dire que les protestants et les juifs, c'est la même chose? Vous avez des super-héros?
Non, mais il y a des petites névroses communes. On aime bien ritualiser le quotidien. Bon, Blueberry ou Corte Maltese, puisqu'on en parle, ce sont des œuvres d'écrivains. Charlier, c'est Alexandre Dumas. Jack London, c'est Hugo Pratt. On sait très bien que si on travaille là-dessus, on est obligé de faire œuvre d'écrivain. Et c'est pas un lieu d'humilité. C'est pas un lieu où on se dit on se casse derrière.
Et l'idée que ce soit des personnages à pointillés ou à trous,
c'est pas faux. On se pose des questions sur leur histoire, on se pose des questions sur leur style graphique. On sait que Charlier, comme Alexandre Dumas, se documentait mal mais avec passion. C'est-à-dire qu'il pouvait faire d'énormes erreurs historiques, mais c'était fait avec telle passion, avec telle gourmandise, qu'on a envie de construire sur ces erreurs. Donc pour nous, ce qui était important, c'est de pas dire à quelle année ça se passe, mais de dire c'est le moment où il est dans son fort, où il est encore à peu près soldat, où il s'est pas encore.
Alors comment vous avez rempli les trous? Parce que moi j'ai l'impression que quand même, non seulement on reconnaît le trait de Blin, on reconnaît votre esprit, mais vous avez ramené quand même des thèmes très actuels. Hein. D'abord bien sûr les femmes. Vous allez me dire que toutes les reprises mettent les femmes en avant, mais vous avez eu cette idée géniale, c'est de donner aux femmes le même statut que les hommes. C'est-à-dire qu'elles peuvent être, elles le sont dans cette aventure amertume, apache, capable du meilleur et coupable du pire. Il y a aussi le colonialisme. On a l'impression que vous avez été imprégné, comme nous tous, par les discours post-colonialistes pour écrire cette histoire. Et puis enfin, bien sûr, la machine qui est déjà là, la machine qui va peut-être battre l'homme dans un système de productivisme. Donc, l'actualité est là, Christophe Blin.
Je crois que tous les personnages de cette histoire sont prisonniers de leurs conditions et de leur rôle, en fait. C'est ça qui nous a guidés.
Et c'est un thème contemporain.
Oui. Et ils arrivent pas à s'en sortir, aussi professionnel soit-il, aussi bon soit-il, aussi cruel soit-il ou aussi bien intentionné soit-il. Ils sont prisonniers de leur rôle et de leurs conditions. Aussi bien les hommes que les femmes, mais d'une façon différente. Et c'est ça que je crois que ça, on l'a pas décidé au préalable avant d'écrire, mais on avait ces choses-là en tête et on l'exprime en tout cas de façon en partie consciente et inconsciente.
Dans Quai d'Orsay, excellent album, ouais. Christophe Blin fait dire à Dominique de Villepin que Tintin n'aborde que des sujets essentiels dans ses albums. La conquête de la Lune, comme vous dites, le colonialisme, ou des choses comme ça. Là, c'est la même chose. On veut parler de sujets actuels. Mais on veut pas faire la leçon, on veut pas faire la morale au lecteur, on lui donne des outils avec lesquels jouer. Et effectivement, notre féminisme ne consiste pas à dire que les personnages féminins sont formidables. Ça, il consiste à dire qu'ils ont le droit de tuer autant que les hommes. Ça c'est intéressant comme outil.
Enfin, pour terminer, est-ce que dans le futur, vous êtes encore jeune, Christophe Blin et Joël Soir, ce serait bien que d'autres personnes reprennent le chat du rabbin, Gus, ça serait pour vous un honneur. Vous n'allez pas me dire que vous êtes contre les reprises aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez une idée en tête du genre, oui, peut-être qu'il faudrait laisser un texte, des recommandations, au cas où d'autres auteurs voudraient récupérer et reprendre nos propres personnages, Christophe Blin?
Pour être très honnête, il me semble qu'à ce moment-là, je serai plus ou moins mort, donc peu me chaud. Ça sera peut-être le problème de mon fils, et je lui souhaite bien du courage, mais très honnêtement...
Pourquoi vous dites ça? Vous avez eu des... C'est dur de négocier avec les ayants droit la reprise d'un personnage?
Ah non, c'est pas que ça soit dur de négocier avec des ayants droit, c'est que ils emportent la responsabilité, enfin, ils ont une responsabilité dans les mains, ou en tout cas, ils ont des choix à faire qui sont forcément.
En tout cas, vous laisserez pas de testament à la manière d'Hergé.
Ah, sur la façon de, si je devais faire quelque chose comme ça, ça serait dans le but de protéger mon fils et essayer de lui faciliter la tâche si ça devait être le cas. Ça serait bon signe que ces choses-là soient envisagées après ma mort, parce que même s'il peut me chaud, ça veut dire que, quelque part, j'aurais eu beaucoup de succès de mon vivant pour qu'on ait envie de le reprendre après ma mort.
Bah oui.
Et que mes personnages ne seraient pas oubliés. Donc de ce point de vue-là, oui, je serais très... Ça serait des problèmes... J'aimerais beaucoup que ces problèmes se posent, parce que ça voudrait dire que ma période, au moment où je suis vivant, est plutôt agréable.
Bon, j'ai du mal à imaginer qui pourrait reprendre le chat du rabbin, par exemple.
Quelqu'un qui aurait envie de le faire. Moi, j'adorerais que mes personnages me survivent, et j'adorerais que les repreneurs ne me copient pas. Et de toute façon, c'est simple. Quand une époque a quelque chose à dire sur un personnage, il s'en empare. Après, s'ils n'ont rien à dire, ça meurt tout seul.
Merci, John Sfar. Merci, Christophe Blin.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et sur franceculture.fr, vous pouvez même retrouver un article consacré aux reprises en bande dessinée Amertume Apache. Cette aventure de Blueberry qui vient de sortir en librairie, signée par Christophe Blain et Johan Sfar, est éditée par Dargo. À la page de l'émission Le Réveil Culturel, vous trouverez aussi un lien qui vous guidera à une archive très très précieuse. C'est Jean Giraud qui dessine Blueberry en compagnie d'ailleurs, sous le regard amusé d'ailleurs, de Hugo Pratt et de Jigé. C'était dans une émission de 1975 à la télévision, l'émission Tac au Tac. On se retrouve lundi et d'ici là, passez un excellent week-end avec France Culture. Cette émission a été préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Bouchard, avec ce matin à la technique, lui, Bardinet. Bonne journée sur France Culture.